et bienvenue dans votre émission Les Mains se livrent. Christophe, pour vous accompagner jusqu'à 11h. Et à la technique, c'est Julien aujourd'hui. Au programme de cette émission du mois d'octobre, eh bien, tout d'abord, une interview d'Héloïse Calloir. Héloïse qui fabrique des photophores à partir de céramique et de pellicule, de très beaux objets qu'elle vous présente. Une interview qui a été enregistrée la semaine dernière. Et puis ensuite, on vous proposera, Camille Plard vous proposera sa chronique autour du zéro déchet. C'est le chemin vert. Et on recevra Laurent Descamps qui ouvre une boutique, une fromagerie, c'est-à-dire une fromagerie végétale. Et ça doit s'ouvrir à Lille prochainement. Il viendra nous présenter tout ça. Ça s'appelle Pistache et Cacahuète. Et tout de suite, je vous propose bien d'écouter l'interview que j'ai réalisée la semaine dernière avec Héloïse Calloir. J'accueille maintenant Héloïse Calloir, qui a créé Hello by Light et qui réalise des photophores en utilisant la céramique, mais aussi des pellicules qu'elle recycle, pellicules photo, pellicules cinéma. Elle va nous expliquer un peu tout ça. Bonjour Héloïse.
Bonjour Christophe.
Justement, explique-nous un peu plus en détail ton concept, en quoi ça consiste.
Merci Christophe pour l'invitation aujourd'hui, en tout cas. Je suis ravie d'être là et d'avoir enfin l'opportunité aussi de présenter un peu mon travail. Donc, je suis artiste plasticienne et du coup, j'ai plusieurs outils à ma palette, dont la photographie argentique et la céramique. Et je suis passionnée des deux, à tel point que j'ai voulu les rassembler en une seule et même pratique, on va dire. Et de là est venue la création d'objets lumineux. Donc grâce à un socle en céramique, que je fais pour l'instant de manière cylindrique, je viens tisser dessus en réalisant des petites perforations dans la terre. Je viens tisser les négatifs. Donc on vient combiner les perforations de la pellicule avec les petits trous que je fais dans la terre. Donc évidemment la terre est cuite avant que je cherche à tisser quoi que ce soit dessus. Et c'est une manière pour moi de venir revaloriser quelque chose qui est tombé un peu en désuétude, les pellicules. Et particulièrement les pellicules du cinéma. Parce qu'en photographie, on a encore quelques aficionados qui font de la résistance, et heureusement, dont j'en fais partie. Et par contre, dans les cinémas, les pellicules ont complètement disparu. Les projecteurs 35 mm ont cédé la place aux projecteurs numériques. Et maintenant, les films sont des clés USB ou des disques durs. Donc voilà, je me suis fait une petite mission personnelle d'aller chiner, trouver, parfois découvrir dans la rue abandonnée des pellicules de cinéma.
Oui, alors ton parcours, c'est un parcours, une formation d'art plastique. Comment tu t'es formée justement voilà. Quel a été ton parcours de formation?
Oui, tout à fait, j'ai fait une formation universitaire. Donc avec une licence en art plastique, avec la photographie qui avait, on va dire, plus de place que les autres options créatives. Tous les 6 mois, on pouvait changer d'option créative, mais je me suis cantonnée à la photographie argentique qui a vraiment été l'outil pour moi pour apprendre à voir le monde de manière différente. Et c'est justement à ça, je trouve, que sert l'art, c'est voir le monde de manière différente, de changer d'angle. Et du coup, la photographie m'a permis vraiment de me construire un œil et d'observer. Je suis déjà quelqu'un de très observatrice à la base. Et grâce à la photographie, j'ai vraiment fabriqué un outil avec mes yeux et l'appareil pour voir le monde de manière différente. Et donc, j'ai poursuivi ces études jusqu'au master. Donc, je suis aujourd'hui diplômée d'un master recherche en art plastique. Et toutes mes études, je les ai donc construites autour de cette question sur qu'est-ce que je vois, comment je le vois, comment ça fonctionne, la perception visuelle, et qu'est-ce que ça rattache comme ça à nos vies. Donc ça fait appel aussi à la mémoire, et donc de manière aussi beaucoup plus large, à l'identité. Et pour moi, la photographie, c'est vraiment ça. C'est une part d'histoire personnelle, avec les photos qu'on fait pour soi, mais aussi l'histoire au sens large, où là, la photographie devient documentaire.
Et la céramique, comment c'est venu, tout ça?
Ça, c'est bien après, parce que figure-toi que j'ai fait mes études d'art à Paris et que j'avais absolument pas la place de travailler la céramique, en tout cas chez moi. Et du coup, j'ai découvert cette nouvelle passion après mes études. Voilà, j'ai mis mes mains dans la terre une fois et j'ai jamais pu m'en sortir, en quelque sorte. J'ai été appelée par cette matière complètement fascinante où on part de l'informe et on lui donne une forme, justement. Et c'était encore une fois un champ des possibles qui s'ouvrait à moi. Donc j'ai trouvé ça fantastique de pouvoir imaginer n'importe quel objet et lui donner vie comme ça. Mais c'est venu après mes études, c'est vrai.
Ok. La mémoire, les souvenirs, c'est au cœur de ton travail, hein. Et tu proposes justement différentes sortes de photophores, plus ou moins personnalisées, hein.
Oui, c'est vrai. On va distinguer trois formes parmi mes photophores, ou en tout cas trois types d'images que j'utilise. La plus répandue, ça va être la pellicule de cinéma. Donc c'est celle que j'ai en plus grande quantité, car j'ai vraiment pu en acquérir depuis un long moment, depuis 2012. Après, on a aussi la pellicule plus de collection. Donc c'est des pellicules qui datent parfois des années 50, que j'ai trouvées dans des marchés opus ou directement auprès de collectionneurs qui cédaient leur collection. Et là, on a vraiment affaire à des petites pépites, comme je les appelle, parce que ce sont vraiment des images qu'on projetait aux enfants dans les écoles, mais à un temps où maintenant on n'imagine plus faire ça aujourd'hui. Donc c'est pour moi vraiment une partie de mémoire collective comme ça. Et qu'est-ce qu'on montrait aux enfants dans ces années-là? Qu'est-ce qu'on leur projetait comme ça directement en classe? Je trouve ça assez fascinant. Et le dernier type d'image, c'est les photographies que tout le monde connaît, que tout le monde a, les photographies de famille. Donc je trouvais ça particulièrement intéressant d'aller chercher dans les albums déjà de ma famille les négatifs, qui souvent se sont restés rangés dans des pochettes au début ou à la fin de l'album et qui ne voient plus jamais la lumière. Et je trouvais ça absolument terrible de savoir qu'ils sont là, comme des reliques un petit peu, et qu'ils ne sont plus mis en avant, mis en valeur. Donc il y a aussi cette partie-là de mon travail où je cherche à obtenir les mémoires de quelqu'un d'autre et les sublimer en transformant ces petits objets qui étaient pour l'instant bien rangés dans un album, en les transformer en œuvres d'art et leur redonner une nouvelle dimension un peu dans l'espace.
C'est-à-dire que les pellicules apparaissent sur l'objet céramique, enfin sur la partie céramique, et puis au-dessus on a les pellicules... Les pellicules de la personne.
Oui, voilà, donc on a souvent des images négatives, donc c'est pour ça qu'on dit des négatives photos. Donc mon travail, c'est de transformer ces images en positifs par un procédé de travail numérique, hein, souvent. Donc je viens scanner les négatifs, j'extrais les images, je les remets en positif et je les imprime. Et après, par un procédé de transfert, donc un processus artistique dont je passerai les détails, sinon on est encore là demain, je viens remettre les images en décoration sur la terre cuite en elle-même. Donc la terre vient absorber l'encre par une technique de transfert photo. Et du coup, ça me permet d'avoir en décoration les images qui sont en visuel sur la colonne de lumière de négatif qui est au-dessus du cylindre en céramique.
Il semble qu'il y a un retour en grâce de l'argentique en photo, un peu comme pour le disque vinyle dans la musique. La pellicule, ça a en quelque sorte changé ton rapport au monde, hein. Tu es devenue plus observatrice.
Oui, alors j'aime bien l'expression que tu emploies, un retour en grâce. C'est vraiment un choix de mots assez intéressant. C'est vrai que finalement, le négatif, un peu comme le vinyle, il a ce côté un peu précieux, que moi, j'en suis particulièrement sensible. Et ça a été important pour moi de donner du poids aux images que je réalisais, mais au sens littéral du terme, hein, donc en les transformant en images papier, ou justement, pareil pour les bobines de cinéma, je te jure qu'elles ont un certain poids, toutes ces bobines de film. Je crois qu'un film, un véritable film en 35 mm d'une heure et demie, ça peut peser jusqu'à 200 kilos de bobines qu'on accumule comme ça. Donc c'est vrai que ces images ont un poids. Elles ont une présence, il faut les stocker, il faut les conserver. elles prennent de la place. Mais tout comme les images qu'elles contiennent, si ces images sont importantes, c'est vraiment redonner un poids à ces mémoires. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse en ce qui me concerne et mon rapport à la photographie, c'est de ne pas oublier que c'est important de faire des images qui comptent vraiment, où on a réfléchi avant de faire clic, qu'on n'a pas fait un mode rafale qui nous a donné 1000 images inutiles, mais plutôt des clics bien pensés, bien conçus, bien préparés, donc cadrés, composés, et qui du coup donnent plus de valeur à l'image et plus de poids en quelque sorte.
Alors pour l'instant, tu n'as pas ton propre four pour créer. Et justement, tu viens de lancer une campagne de financement participatif sur Ulule pour être plus autonome notamment.
Oui, c'est là mon principal objectif de cette fin d'année 2019, de devenir plus indépendante dans mon travail. Donc jusqu'à présent, je me rends chez d'autres céramistes pour cuire mes pièces. Alors c'est génial parce que en tant que débutante dans ma carrière de céramiste, entre guillemets, ça m'a permis de faire de très très belles rencontres, de parler céramique, d'avoir aussi en quelque sorte des mentors pour m'aider à travailler cette matière. Mais le temps est venu pour moi d'apprendre à gérer mes propres cuissons et du coup, je vais faire évoluer ma méthode de travail grâce à l'acquisition de mon premier four à céramique.
Donc on peut retrouver ça sur Ulule, ça s'appelle donc Hello by Light.
Hello by Light, ouais, en un mot.
En un mot, voilà, sans accent, et vous allez retrouver ça sur Ulule. Alors justement, qu'est-ce que tu proposes comme contrepartie? On va pas les citer toutes, mais en gros, ce que tu proposes.
Oui, donc c'est aussi une manière pour moi, avec cette campagne Ulule, eh bien, de faire connaître mon travail. Donc en contrepartie, ça va du simple petit médaillon en céramique avec une citation cinéma par exemple, jusqu'au photophore personnalisé où là je reçois les pellicules d'aficionados de l'argentique comme moi, ou simplement des gens qui souhaitent conserver leur mémoire différemment parce qu'elles comptent à leurs yeux, elles sont précieuses ces mémoires, et donc obtenir l'aide d'un artiste pour les mettre en valeur pourrait leur sembler intéressant. C'est une idée cadeau super originale parce que du coup, il n'y a pas un photophore qui se ressemble. Et entre deux, je propose aussi d'acquérir, ou plutôt d'adopter, comme j'aime bien dire, et ben des photophores de cinéma. Donc de participer à la sauvegarde de ces pellicules avec un petit photophore de cinéma contemporain, de pellicule cinéma contemporain, ou bien d'autres que j'aurais plutôt... réalisé avec des pellicules de collection, donc des images des années 50. Ça va être le côté un peu plus vintage des contreparties.
Ok, et cette campagne se termine quand?
Oui, donc elle va prendre fin le 8 novembre prochain. Et donc jusque-là, je vais dynamiser un peu la campagne en réalisant des petites vidéos sur ma page Ulule et qui vont me permettre justement d'apprendre à me mettre en scène à travers mon travail, de parler de moi en tant qu'artiste, qui est aussi tout nouveau pour moi.
Oui, justement, tu as présenté ton travail pour la première fois, je crois, en public, il n'y a pas longtemps, le 24 septembre à Marcq-en-Barœul, c'est ça?
Oui, c'était une opportunité assez exceptionnelle que m'a proposé Ulule. Donc ils ont réalisé leur Pitch Project. C'était l'édition Made in France pour la région lilloise. Donc c'est un projet qui a d'envergure nationale et ils vont parcourir 19 villes, dont celle de Lille, enfin de la métropole lilloise. Et j'ai eu la chance de faire partie des 10 porteurs de projets Made in France qui ont présenté du coup en public leur campagne Ulule. Et ça a été pour moi l'occasion de voilà, dans un temps très très court, de 2 à 5 minutes maximum, de présenter ce que je fais, de transmettre les valeurs liées à mon travail et aussi pourquoi je fais la campagne.
Alors la campagne va te permettre non seulement d'acquérir un four voilà, pour ton travail, mais aussi de lancer ton site internet.
Oui, c'est vrai que du coup, c'est un indispensable de nos jours, avoir une vitrine internet de son travail. En tant qu'artiste, il faut pas rester dans son coin, il faut tout de suite montrer ce qu'on fait. Alors, j'ai déjà une vitrine qui est Instagram, évidemment, qui est un réseau social propre aux artistes, puisqu'il met en avant les images plutôt que le texte. Donc, je me sers beaucoup de ce réseau social-là. mais je sais que j'ai besoin d'une vitrine plus officielle, on va dire, d'une page vraiment clean, où à terme, je vais même pouvoir ajouter une fonction e-commerce, par exemple, dessus. Ça m'intéresserait énormément.
Alors oui, tu parlais des réseaux sociaux, eh bien on peut découvrir aussi ton travail sur Instagram et sur Facebook, hein, Hello by Light pour les deux. Et j'ai vu que on peut voir aussi tes créations précédentes en photo, cinéma, sculpture sur un blog.
C'est vrai que ce blog n'est plus animé depuis un moment, mais il m'a servi de vitrine première pendant mes études. Donc sur ce blog, donc helloca.wordpress.com, bon, c'est vrai que c'est un nom un peu tortueux. J'ai combiné mon prénom et mon nom de famille, qui est déjà assez compliqué. Mais c'était ma première vitrine internet. Et dessus, on peut voir du coup des photographies argentiques, des photographies aussi un peu plus artistiques où j'ai peint sur la pellicule, donc des photos abstraites. Et aussi, du coup, ma première expérience de cinéma en tant que réalisatrice avec mon tout premier court-métrage qui s'appelle Matière, qu'on peut aussi retrouver sur YouTube ou sur ma page Facebook.
Alors, quels sont tes modèles, les artistes ou les œuvres qui t'inspirent?
Oh là là, Christophe, il y en a tellement. tellement que ça va être maintenant difficile de faire une sélection là sur le vif. Il y en a un. C'est un incontournable à mes yeux, c'est, on va dire, le maître de l'image abstraite, c'est le maître de la pellicule. Il s'appelle Stan Brakhage. C'était un cinéaste des années 70. Alors attention, parce que dans mon panel d'artistes préférés, il y en a beaucoup qui sont vraiment rétro. Et pour le coup, Stan Brakhage en fait partie. Il a vraiment une vision du cinéma qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle est vraiment reliée à la mémoire. En fait, cet homme devait certainement voir la vie en pellicule parce qu'il avait toujours une caméra vissée à l'œil. Et il a écrit notamment un bouquin qui a vraiment retourné toutes mes études, la Close Eyes Vision. Alors, c'est un livre en anglais puisque Stan Brakhage est britannique. C'est donc la vision, les yeux fermés. Et c'est vraiment ce qui m'a vraiment plu chez cet artiste, c'est qu'il s'intéresse aux images dans toutes leurs formes, à la fois celles qu'on peut mettre sur la pellicule et enregistrer grâce à la lumière, mais aussi les images qu'on peut se faire les yeux fermés, les images mentales. Et ça a été pour moi une révélation dans mon travail. Je me suis beaucoup inspirée de lui pour mes recherches.
Tu es passionné de photos, de cinéma, de céramique. Et comme dans toute passion, on aime la transmettre. Et toi, tu envisages d'animer des ateliers et des conférences.
Alors, plutôt des ateliers que des conférences, parce que j'essaie de quitter ce statut un peu universitaire qui m'a formée, et plutôt d'aborder l'art de manière beaucoup plus conviviale, de beaucoup plus instinctive et naturelle. Et du coup, oui, des ateliers, bah, tout d'abord de modelage, hein, de la céramique, d'initiation à cette matière, et pourquoi pas aussi des ateliers de cinéma expérimental. C'est quelque chose que j'ai déjà pu expérimenter moi-même en tant qu'artiste intervenante dans une école où j'ai initié des jeunes à l'image en pellicule, à décomposer 24 images par seconde et apprendre à dessiner le mouvement à même la pellicule. Donc il s'agit de gratter tout simplement de la pellicule et de venir dessiner à la main sur du film. Donc ça renvoie un peu aussi à la création des dessins animés, des choses comme ça. Et ça me plairait énormément d'animer ce genre d'atelier.
Alors, on peut voir ton travail, on l'a dit, donc sur les réseaux sociaux, prochainement sur un site internet. Et sinon, physiquement, où peut-on voir ton travail?
Eh bien, ma prochaine actualité, ça sera au mois de novembre où je vais retourner exposer mon travail, car j'y suis déjà allée une première fois, mais au sein d'une galerie associative qui s'appelle L'Œil du Chat, qui est située bah, juste en dessous de mon atelier, en fait, dans la rue des Petits-Viésiers à Arras. Et c'est une galerie associative dont je suis membre également. Et donc, j'ai la chance, quelquefois dans l'année, de pouvoir à mon tour présenter mes œuvres, parce qu'on a aussi une multitude d'artistes invités. Et donc, ça sera l'occasion pour moi de redonner une nouvelle vitrine physique à mes toutes dernières pièces.
D'autres événements?
C'est vrai que j'ai pas encore une actualité de ministre, on va dire. C'est encore très, très succinct, l'occasion pour moi de montrer mon travail. Donc c'est vrai que mon quotidien s'organise en ce moment à élaborer les contreparties que je promets via ma campagne sur Ulule. Donc c'est énormément de temps que je passe à l'atelier. À vrai dire, je fais pas grand-chose d'autre hein, que fabriquer mes pièces. Donc c'est une phase comme ça de productivité qui m'isole un petit peu du reste du monde. Mais une fois que cette partie de création est faite, une fois que j'ai renouvelé aussi un peu mes stocks, je peux retourner dans une autre phase qui est plus la prospection et la monstration de mon travail. Donc j'espère que 2020 va me promettre beaucoup d'opportunités pour ça. En tout cas, je les provoquerai.
Eh ben, on l'espère, ici, à Radio Plus. Alors, pour te contacter, donc, il y a Facebook, Instagram et peut-être un mail, non?
Oui, bien sûr, on peut évidemment écrire à hellobylight@gmail.com pour toute demande de collaboration ou pourquoi pas d'œuvres personnalisées aussi. Et je me ferai une joie de répondre à toute demande.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Héloïse.
Merci Christophe.
Et donc, on rappelle, la campagne, c'est actuellement et c'est jusqu'au...
Jusqu'au 8 novembre.
Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au
Bonne
revoir,
journée à toi.
bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était Héloïse Caloire pour Hello by Light. Et dans quelques instants, on se retrouve en studio avec Laurent Descamps pour parler de fromage végétal, autrement dit de fromage. Non, c'est pistache et cacahuète, mais je vous propose tout de suite d'écouter la chronique de Camille Plard. Qui a enregistré hier, elle ne pouvait pas venir aujourd'hui, elle est en atelier ce matin. Donc, je vous propose d'écouter la chronique de Camille, Le Chemin Vert.
Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place du zéro déchet à la maison. On passe de la théorie à la pratique. Concrètement, comment se mettre au zéro déchet dans votre vie quotidienne? Réduire, c'est tout d'abord observer nos habitudes de consommation. Et donc, tout simplement, regarder ce qui se trouve dans nos poubelles, pièce par pièce. Ainsi, on se pose les questions suivantes. Quels déchets se trouvent chez moi et quelles alternatives adopter pour les remplacer? Je vous donne aujourd'hui des alternatives simples pour deux pièces de la maison très génératrices de déchets, la cuisine et la salle de bain. Commençons par la cuisine. Dans les placards, les ingrédients de base peuvent être facilement achetés en vrac ou en grand contenant si vous n'avez pas de boutique vrac à proximité. Vous évitez ainsi les emballages de pâtes, de riz, de farine, de sucre, etc. Le café et le thé en vrac sont même souvent moins chers qu'en sachet ou en capsule. Observez les prix au kilo en supermarché. Économiquement, il y a souvent une grosse différence. Pour remplacer les légumes en conserve ou surgelés, consommez des légumes frais que vous pouvez pré-cuire et congeler. Si vous avez envie de manger des haricots verts en plein hiver, ne vous jetez pas sur les haricots proposés en supermarché qui viennent du bout du monde. Préférez acheter un bocal de haricots verts bio, vous pourrez même réutiliser le bocal par la suite. Consommez les fruits et légumes locaux et de saison. Il n'est pas bon signe de voir des fraises ou des tomates en hiver, et on les consomme évidemment sans emballage. Évitez également les sachets plastiques de supermarché en utilisant des sacs à vrac que vous pouvez acheter dans le commerce ou que vous pouvez réaliser très facilement vous-même en tissu de récupération par exemple. Posez-vous la question également de l'utilité d'un sachet. En ai-je besoin pour transporter un melon, une salade ou encore si j'achète deux courgettes, je peux tout à fait mettre l'étiquette sur l'une d'elles. Pour les gâteaux, l'idéal est de privilégier le fait maison. Mais il n'est pas toujours évident d'avoir du stock. Alors on passe peut-être à des gâteaux emballés, mais on préfère aux paquets de gâteaux souvent suremballés dans l'industrie, les gâteaux en vrac ou encore en grand contenant. Dans la cuisine, on trouve également énormément de biodéchets. Si vous n'avez pas encore de composteur ou de collecte en porte-à-porte, il est intéressant de séparer vos biodéchets de votre poubelle grise pour vous rendre compte de la quantité de nourriture gaspillée sur plusieurs jours. Regardez ce que vous avez jeté et voyez comment vous pourriez éviter la poubelle au reste de repas ou encore aux épluchures. Vous pourrez facilement accommoder certains restes et vous concocter un déjeuner pour le lendemain. Enfin, vous pouvez facilement remplacer le sopalin par une éponge de cuisine pour absorber les petits accidents ou par des serviettes en tissu lors des repas. Voilà pour la cuisine. Passons maintenant à la salle de bain. Pour remplacer le gel douche, on passe au pain de savon, classique et intemporel. Il existe maintenant des créateurs locaux qui vous proposent tout type de savon Et pourquoi ne pas apprendre à faire vous-même vos savons lors d'un atelier de saponification à froid, par exemple? Pour le shampoing, c'est la même chose. Le shampoing est aussi passé à la forme solide. Il vous suffit de le frotter sur votre cuir chevelu ou entre vos mains et le tour est joué. Petit plus non négligeable, les solutions solides sont bien plus pratiques à emmener en voyage. Fini les bouteilles prenant beaucoup de place dans votre valise et qui risquent de couler dans votre trousse de toilette. Vous évitez également tous les composants chimiques qui se trouvent dans ces produits, du silicone contenu dans le shampoing aux perturbateurs endocriniens, etc. Votre corps ne s'en portera que mieux. La brosse à dents a également ses alternatives. La fabrication d'une brosse à dents en plastique qui pèse environ 130 grammes nécessite 1,5 kg de ressources naturelles. Il existe aujourd'hui beaucoup d'alternatives à ces brosses à dents, comme les brosses à dents en bambou ou encore les brosses à dents en plastique rechargeable qui sont faites à base de ricin et en partie recyclables, comme les brosses à dents de la marque Lamazuna. La brosse à dents est composée d'un corps simple sur lequel vous pouvez ajouter une tête que vous changez comme vous changeriez de brosse à dents. Pour le dentifrice, nous pouvons aussi parler d'emballage, mais aussi du contenu de la pâte en elle-même. Si je vous dis du sorbitol, du triclosan, du diatonalamine, sans être moi-même chimiste, je peux vous dire que tout cela n'a rien de naturel. Vous pouvez faire vous-même votre pâte à dentifrice, ou encore acheter des alternatives solides, aux compositions saines, et encore une fois, sans emballage. Mesdames, pour vous démaquiller, vous pouvez mettre en place des gestes très simples. Les cotons jetables, bien blancs, que vous utilisez au quotidien, subissent pas moins de 32 traitements chimiques avant d'arriver dans votre salle de bain. Passez donc au coton lavable, qui nécessite certes un investissement au départ, mais que vous conserverez entre 3 et 5 ans. Si vous avez peur qu'il soit terni par le maquillage, plongez-les simplement dans un bain d'eau tiède avec du percarbonate de soude. C'est magique, ça vous blanchira la lingette. Et pour le démaquillant, on change également les habitudes. Fini les eaux micellaires qui piquent les yeux, ou encore le lait démaquillant super parfumé. Passez aux huiles végétales et aux eaux florales. Je vous donne ma recette en fin de chronique. Dernière petite astuce pour la salle de bain, le coton-tige, qui peut être facilement remplacé par un lavage des oreilles simplement avec le pommeau de douche puis un coin de serviette. Et si vous souhaitez conserver le geste du coton-tige, vous trouverez maintenant un peu partout des petites tiges en bambou, appelé auriculi, servant à nettoyer l'entrée de l'oreille et que vous pourrez laver et réutiliser. Je vous donne comme promis la recette du démaquillant. Alors vous aurez besoin d'un spray ou d'un flacon en verre, d'huile végétale, par exemple de l'huile de jojoba, de l'huile d'abricot, de l'huile d'amande douce, tout dépend de votre type de peau, et d'eau florale, comme de l'eau de rose ou de l'eau de bleuet. Pour faire le démaquillant, il vous suffit de mélanger dans votre flacon, un tiers d'huile végétale avec 2 tiers d'eau florale. Vous secouez le mélange avant chaque utilisation. Vous humidifiez votre coton lavable et vous procédez à 4 ou 5 pulvérisations de votre mélange sur le coton. Vous êtes prête à vous démaquiller. Et voilà, vous voilà paré à un premier tri de vos poubelles.
Eh bien, merci beaucoup Camille pour cette chronique. Donc toi, tu diriges by Lélicam et donc je vais te demander quelles sont les activités pour by Lélicam.
Oui, déjà ce week-end au niveau national, il y a les journées portes ouvertes d'ateliers d'artistes, donc les 12 et 13 octobre. Et du coup, les ateliers jouerais, où j'ai moi-même mon atelier, sont ouverts samedi et dimanche. Voilà, et moi, j'y serai dimanche, a priori.
Tu vas faire des démonstrations?
Alors, en fait, moi, je vais peut-être travailler un petit peu pendant ce week-end et puis expliquer surtout mon activité, les ateliers, voilà, et puis pouvoir discuter. C'est l'occasion de discuter avec le public et d'échanger et de montrer quelques pratiques éventuellement.
Très bien. D'autres choses à annoncer?
Oui, j'interviens également, donc toujours pour mon activité, le 16 octobre dans le cadre du World Forum qui a lieu à Lille. Alors il y a tout un programme en ligne, c'est à partir du 15 octobre, et donc moi j'interviens le 16 octobre matin sur la dynamique textile autour du zéro déchet.
Donc ça c'est tes activités prochainement, mais il y a aussi un événement virtuel qui va arriver, c'est l'ouverture d'un site internet.
Oui, ça y est, j'ai sauté le pas. Et du coup, mon site internet doit être en ligne à partir du 15 octobre, on croise les doigts. Et donc, ce sera lelicam.fr et qui regroupera mes deux activités, puisqu'autour du zéro déchet, je travaille en tant que créatrice textile et également en tant que consultante. Voilà, donc ce sera en ligne normalement mi-octobre.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Camille.
Et merci à toi.
Donc, au mois prochain.
Merci, au revoir.
Au revoir. Voilà, c'était Camille Plard, que vous retrouverez donc en novembre. Eh bien, je suis maintenant avec Laurent Descamps de Pistache et Cacahuète. Bonjour, Laurent.
Bonjour, Christophe.
Alors, toi, tu vas ouvrir prochainement à Lille une fromagerie, c'est-à-dire une fromagerie végétale, la première fromagerie à la découpe de France,
oui.
Dans le quartier de Oisem, près des Halles de Oisem, près du marché.
Oui, ouais, juste à côté.
Et donc avec Laurette Aubaré.
C'est ça, ouais, c'est ma compagne.
Voilà, tu as deux à créer Pistache et Cacahuète. Comment est né le projet? Quel a été votre parcours à tous les deux avant de créer votre boutique?
Eh bien moi, en fait, à la base, j'ai travaillé pendant 14 ans dans l'informatique. Et à un moment donné, j'ai vraiment voulu donner un peu plus de sens, donner un peu plus de sens véritablement à mon métier. Parce que j'ai une petite fille qui va avoir 10 ans. Et en fait, je suis végétarien depuis une quinzaine d'années et j'ai découvert ces produits, ces alternatives fromagères en version végétale il y a un petit peu plus de 5 ans maintenant. Et moi, j'ai vraiment, j'adore le fromage et le fait de découvrir ces produits, je me suis dit mais c'est absolument fabuleux et il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je le fasse connaître. Ça, c'était août de l'année dernière. Et donc j'ai pris la décision de quitter mon métier. Et puis quand j'ai commencé à vraiment sauter le pas, tout pile à ce moment-là, je rencontre ma cacahuète, c'est-à-dire je rencontre Laurette. En fait, elle vient se greffer en fait vraiment naturellement au projet. Moi, je lui montre ses produits. Elle avait déjà une certaine sensibilité. Je lui montre ses produits et elle me dit banco, on y va. Ensuite, le projet s'est monté progressivement. Contacter les fournisseurs, etc. J'ai fait une formation à la BGE et puis. Nous finalement, on se complète assez bien parce que, enfin, elle travaille dans le commerce. Elle fait du visual merchandising et donc s'occuper un petit peu du futur magasin, de l'agencement des produits, etc. Comment vit un magasin au jour le jour. Là, je compte entièrement sur elle. Ça va être son taf. Bon, après, j'avoue que au jour le jour, c'est un peu mon atout séduction dans les rendez-vous, disons avec des fournisseurs et autres. C'est né comme ça. Et puis, d'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu Pistache et Cacahuète quand même,
ouais,
parce que
bon.
Voilà, alors. Pistache et Cacahuète, parce que effectivement, Pistache et Cacahuète, comme ça, on n'y pense pas, mais enfin, ça n'a de base aucun lien avec le fromage, voire les fromages. Mais en fait, Pistache, c'est mon surnom à moi. C'est le surnom que m'a donné, en tout cas, son plus jeune fils. Et puis, moi, j'ai toujours donné ce surnom de Cacahuète à Laure. On cherchait un nom. Et c'est sorti comme ça, en se disant, ben bien sûr, parce que c'est à la fois notre histoire, mais c'est à la fois par rapport au projet, on va y revenir avant, c'est l'envie de créer un moment convivial. Et donc deux produits, j'allais dire, qui parlent un petit peu en termes d'apéro, en termes de moment convivial entre amis, ça nous semblait pertinent, quoi. Et puis c'est aussi cette volonté de ne pas forcément annoncer la couleur tout de suite en disant ben voilà, on fait du végétal. Il y a surtout l'envie de mettre en avant un bon moment, plus que finalement le produit en lui-même. C'est surtout aussi l'envie de créer ces moments-là.
Oui, la convivialité, c'est un peu votre maître mot. Hein,
ouais. Le plaisir, la partage, la gourmandise, c'est les maîtres mots du projet.
Alors donc, les fromages, ouais. Les fromages végétaux, quels sont les ingrédients principaux? De quoi sont constitués ces fromages?
Alors, les fromages, ils sont principalement constitués aujourd'hui de noix de cajou. La noix de cajou donc est un oléagineux qui est assez gras, qui en fait on ne le sait pas mais fermente bien possède aussi la capacité d'être un peu neutre en saveur et qui va permettre de laisser vraiment s'exprimer les ferments. Il faut savoir que sur les fromages que je propose, on utilise les mêmes ferments que sur les fromages à base de lait animal. Alors juste petite parenthèse donc. Légalement, on n'a pas le droit d'appeler ça des fromages. Hein. Un fromage, c'est un produit à base de lait animal. Voilà. Mmh. Donc, c'est pour le dire si jamais la DDPP nous écoute.
Après, on peut dire fromage végétal, non?
Je pense qu'on n'a même pas le droit. Enfin, entre guillemets, on a le droit de le dire, mais on n'aura pas le droit de l'écrire.
Ou du fromage.
Voilà. Alors, fromage, mais ça me gêne un petit peu parce que vendre du faux.
Oui, du faux, c'est pas terrible non plus. Hein. Ouais.
Voilà. À la base, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir la première fromagerie, même en Europe. Mais on s'est fait doubler en février. Il y a eu à Londres la fromagerie qui a ouvert. Et bon, eux, ça les gêne moins, à mon avis, d'appeler ça quelque chose de faux, puisque ça sonne quand même français. Voilà. Et donc, pour revenir sur votre question, Christophe, il y a la noix de cajou, mais on travaille aussi sur d'autres produits, parce que la noix de cajou a ses qualités gustatives, d'accord, et ses qualités de pouvoir fermenter, mais c'est un produit quand même qui vient de loin. Aujourd'hui, il y a des travaux qui sont faits, notamment sur de la graine de tournesol, sur de l'amande. Il y a aussi des préparations, plus des préparations végétales, où on ne fait pas intervenir de ferments, mais qui vont avoir des notes fromagères, qu'on va travailler avec de la fécule de pomme de terre, avec de la protéine de pois ou des choses comme ça. Voilà.
Ok. Et donc, pistache et cacahuètes, vous ne fabriquez pas, hein, vous proposez à la vente des fromages.
À la base, il y avait vraiment le souhait, à un moment donné, de se dire, je vais peut-être essayer de créer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas reproduit dans le marché des fromages, c'est les pâtes lavées. C'est-à-dire, c'est le maroilles, le master, ça n'existe pas. D'accord? C'est d'ailleurs ce sur quoi travaillent la plupart des fournisseurs. Il y a une vraie compétition sur le premier qui va sortir vraiment son master, par exemple, ou son maroilles. Moi, j'aurais aimé vraiment sortir mon maroilles, mais c'est beaucoup de travail, comme je disais précédemment. En fait, un fromage, c'est 2 à 3 ans de travail. En sortant de l'informatique, j'ai pas forcément les compétences. Je pense que ça aurait même pris plus de temps pour moi. Du coup, quand j'avais vraiment ce projet naissait, je me posais vraiment la question, est-ce que je fais mon propre fromage? Est-ce que je vends? Là, aujourd'hui, le concept, il est vraiment de uniquement vendre. Et vraiment réinventer le concept de fromagerie comme on peut le trouver aujourd'hui. C'est-à-dire de réunir tout un panel de références de fromage pour mettre en avant le goût, l'artisanat, la qualité.
Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on t'a invité, c'est pour aussi parler des artisans avec lesquels tu travailles. Donc tu vas, avant d'ouvrir la boutique, il y a des dégustations qui vont se faire un peu partout.
C'est ça, bah, on a déjà commencé depuis mai de l'année dernière, en fait. On a eu une pause estivale, bien sûr, mais depuis l'année dernière, on a fait vraiment des séances, des soirées. Alors, il y a eu des soirées avec des restaurants. On a été à Pifit, rue de l'hôpital militaire à Lille, où, en fait, il a travaillé nos produits. Il a utilisé un fromage à base de kimchi végétal, qui piquait pas mal, pour en faire des ravioles. Et nous, on a proposé une planche apéritive au début du repas. On a fait la même chose avec la face B, on a fait la même chose avec un bar qui s'appelle le Liquium. Et là, récemment, on a travaillé avec un de nos futurs voisins, rue Gambetta, l'Unos Bar. Et c'est pareil, donc on a proposé des planches apéritives. Et là, en fait, demain soir, on va à Sauge, qui est un restaurant sans gluten, sans lactose. Donc on n'en a pas parlé, mais les personnes qui sont intolérantes au lactose sont forcément très intéressées par ce genre de produit.
Donc au Sauge, c'est demain, quelle heure?
Alors c'est à partir de 19h. Alors on en parle, mais en fait c'est sur réservation et c'est déjà plein. Il y a plus de place. Il y a plus de place depuis 2 jours. Et c'est un apéro où là on va eux apportent leurs produits, moi j'apporte mes produits et on compose ensemble une planche.
Sinon il y aura d'autres événements, d'autres dégustations. Alors oui, à un autre moment.
Ouais. La semaine prochaine on s'en va dans un bar qui est juste à côté de Saint-Sauveur. En face du parc Jean Lebas qui s'appelle l'Alchimiste. Et puis comme ça il va y avoir au fil du temps d'autres propositions. On risque d'aller voir un petit peu autour de chez nous, entre guillemets, notre futur chez nous, du côté d'Oisem, etc.
Oui. Et sinon on peut retrouver d'ores et déjà les produits sur un site internet.
Oui.
Donc c'est pistache-cacahuète.fr.
C'est ça.
Et donc là, on peut commander, on peut se faire livrer sur la métropole, c'est ça?
Alors oui, la livraison, c'est sur la métropole lilloise uniquement. Tant que je ne suis pas ouvert, je n'ai pas l'espace de stockage nécessaire pour pouvoir livrer plus. Et même m'engager sur un contrat avec un transporteur.
C'est-à-dire qu'après, quand vous aurez votre boutique, vous pourrez vendre...
Moi, l'objectif, il est de vendre à travers la France.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et alors, justement, donc, avant d'ouvrir la boutique, vous avez lancé une campagne de financement participatif.
Tout à fait.
Avec My Money Help, donc en anglais, mymoneyhelp.fr.
Ouais.
Avant de parler de la campagne, peut-être quelques mots sur My Money Help.
Alors, My Money Help, j'ai eu l'occasion en fait en travaillant sur l'île de tisser un certain réseau. Puis à un moment donné, j'avais vraiment cette envie de faire ce financement participatif on m'a parlé de cette plateforme qui est une plateforme solidaire. Et qui est tenu par des bénévoles. Donc, en fait, il y a plusieurs avantages par rapport à ça. Il y a une certaine forme, j'allais dire, de proximité, mais il y a aussi le fait que le My Money Help ne va pas se rémunérer sur un pourcentage des dons qui ont été faits, mais c'est quelque chose de fixe. Et puis aussi, autre gros avantage, c'est vraiment on n'est pas sur du tout ou rien. C'est-à-dire, si je n'atteins pas mon objectif aujourd'hui. L'argent qui a été donné, je l'ai. Parce que au final, sur les grosses plateformes, type Ulule, KissKissBankBank, on a un phénomène où sur la fin, la plupart du temps, c'est le porteur du projet qui va mettre lui-même l'argent pour récupérer l'argent. Donc, enfin, pour pas avoir cette, même si il y a un peu un effet levier, moi je trouvais quand même plus cohérent. De partir sur My Money Help parce qu'on a quelque chose de plus sain qu'un KissKissBankBank ou un Ulule. Voilà.
Ok. Et à quoi va servir cette campagne?
Alors cette campagne, elle sert surtout à financer les travaux de la future boutique. Parce que on a choisi une boutique particulièrement bien placée. On est vraiment juste à côté des halles de Oisem. On a une visibilité énorme. Enfin, je veux dire, en venant de Gambetta, on voit véritablement la boutique. Et puis, on a une visibilité, bien sûr, par rapport au marché de Oisem. Le mardi, le jeudi et le dimanche, en particulier le dimanche. Cette visibilité, elle a un prix. Aujourd'hui, ce local, il y a un certain nombre de, il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros de travaux dedans. Et donc, on a besoin d'être aidé, d'être sponsorisé. On a besoin d'emmener les gens avec nous dans cette aventure parce que je pense que le aujourd'hui on a un certain nombre de défis à relever et chacun peut nous aider là à essayer de créer un petit peu ce monde de demain, cette fromagerie du futur. Et donc j'engage tout le monde, même à après au-delà même du don, partager, en parler autour de soi, faire en sorte que moi je pense que ça peut être une fierté pour les Lillois d'avoir la première fromagerie de France. J'espère, je souhaite profondément que Lille devienne une capitale du végétal. Comme je vous disais tout à l'heure en préparant un petit peu l'émission, il y a 2 ans on avait un nombre de propositions pour 100 000 habitants au niveau de la restauration qui était au-dessus de Paris. On s'est fait doubler l'année dernière. Pour moi, c'était une fierté et j'aimerais bien contribuer à retrouver notre place de premier, quoi.
Très bien. Et donc, on peut contribuer jusqu'à quand, justement?
Alors, il reste 25 jours. La contribution, la dernière date, ça doit être début novembre, le 3 novembre, quelque chose comme ça, je crois.
Donc, vous allez sur My Money Help, puis là, vous tapez pistache et cacahuète.
Ouais,
et
ouais,
vous
ouais.
Allez retrouver.
Alors, de toute manière, toutes nos publications sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver le lien. Il est partout.
Voilà, sur Facebook et Instagram, donc pistache et cacahuète. Et quelles seront les contreparties pour,
Alors, les contreparties, donc on en a, alors je sais plus, on va avoir 9 ou 10.
Grosso modo.
Grosso modo, oui. Alors la première contrepartie, c'est un verre de vin au sein de la boutique. Alors, j'ai pas parlé de la boutique, je fais une toute petite parenthèse sur la boutique qui est quand même un concept un peu particulier. C'est-à-dire, on va avoir vraiment un espace dédié à la vente à la coupe, avec tout un ensemble de produits aussi autour du fromage, des produits de terroir comme on peut le retrouver sur les fromageries classiques. Ça veut dire de la charcuterie végétale, des saucissons végétaux, du jambon végétal. Ça veut dire aussi du vin. Et au-delà de ça, on y adosse pour pouvoir faire véritablement déguster le produit, parce qu'il n'y a pas de secret. Le produit étant ce qu'il est, il n'est pas connu. Il peut faire un petit peu peur, puisqu'il va rencontrer un petit peu des traditions qu'on essaye de réinventer. Et ben, on met un espace dégustation à côté. C'est-à-dire un espace dégustation, on peut commander une planche apéritive avec un certain nombre de produits, on les choisit, et du verre de vin, etc., et des boissons. Et tout ce qu'on a, justement, mangé ou goûté à ce moment-là, et ben, on va pouvoir repartir avec dans la partie boutique. Voilà le concept. Donc je parle de ce concept, c'est parce que les contreparties, donc c'est un verre de vin. Le premier c'est un verre de vin. Alors si je dis pas de bêtises, le second c'est la gravure du nom prénom sur un meuble de la boutique. Ensuite, on a aussi des planches qu'on va personnaliser avec le logo pistache et cacahuète et le nom. Donc avoir cette planche pour soi. Ensuite, ça va être une planche avec deux verres de vin. Et ensuite, on part sur... il va y avoir une soirée d'inauguration, VIP, j'allais dire, avec la venue exceptionnelle d'un de nos fournisseurs, les petits véganes. Je vous ai fait goûter un de leurs fromages tout à l'heure, qui est assez bluffant.
C'était très bon.
Merci. Et donc, ils vont venir à l'occasion de notre inauguration. Ça sera l'occasion de les rencontrer, de voir un petit peu. Enfin, ils vont parler de leurs produits, etc. On a aussi des ateliers. On a un partenariat avec Évasion Végétale, qui est un traiteur végétal sur l'île. Stéphanie, que je salue. Elle propose en fait un atelier de cuisine végétale autour des fromages, et puis aussi un cours de cuisine à part entière à domicile pour deux personnes. Voilà. Et en dernier lieu, on a un dernier pour le top du top entre en termes de contrepartie, où là on propose un panier de fromage pour 50 personnes pour un événement. D'accord, ça peut être un événement d'entreprise, ça peut être un mariage, comme on a eu l'occasion de le faire le week-end dernier. C'est vraiment quelque chose. Alors, si vous voulez vraiment contribuer très très fort à notre projet, mais aussi pouvoir en faire profiter des amis, la famille, etc. Voilà.
Très bien. Alors, on ne pourra pas vraiment citer tous les fournisseurs, mais enfin, si on va pas pouvoir en discuter longuement, on va dire, mais quels sont les fournisseurs justement de pistaches et cacahuètes?
Alors, je parlais des petits véganes qui sont en Moselle. Je vais aussi vous parler en fait la première les anciens, j'allais dire, qui ont ouvert en premier, qui sont J-Joy sur Paris, qui ont l'avantage de aussi justement, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux ingrédients, de faire des tests sur de la menthe, sur de la graine de tournesol, etc. Voilà J-Joy. On a également Tom Pousse qui est un concurrent qui fait aussi de la feta, par exemple, de la très bonne feta. On a aussi les nouveaux affineurs sur Nanterre qui en fait eux ils ont vraiment une démarche qualité, vraiment top qualité, qui viserait plus d'ailleurs du fromage gastronomique. On a vraiment un tarif assez assez élevé, mais pour une qualité qui est franchement, c'est l'un des, ils sont dans les tops. C'est vraiment, c'est le genre de fromage qui, de fromage, pardon, qui, peut véritablement faire, comment dire, se tromper en dégustation à l'aveugle. Ensuite, j'ai des producteurs un petit peu partout. Ben, les saucissons dont je vous parlais, ils sont produits pas loin. Les saucissons végétaux, ils sont produits à Éperlec.
À Éperlec, dans le Pas-de-Calais, ouais.
Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, ça va être des petits producteurs, comme je vous disais tout à l'heure, comme je te disais tout à l'heure, j'ai du mal, hein, je suis désolé. Je te disais tout à l'heure, j'ai des producteurs sur Lyon, j'ai des producteurs sur Nice, sur Bordeaux. Là, je viens de découvrir un petit producteur en Bretagne. Voilà, enfin, on est en train de rattraper le retard sur le monde anglo-saxon qui a déjà pris le tournant du végétal depuis un moment, mais on a nous cette tradition, cette technique élaborée depuis longtemps. Il serait vraiment dommage de pas prendre à bras le corps tout ça.
Donc, Pistache et Cacahuète, ça sera la boutique. Il y aura des événements, des soirées aussi.
Ouais.
En collaboration avec des bars et des restaurants.
Oui, c'est ça. Et même au-delà de ça, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on a déjà commencé, c'est démarcher les bars, les restaurants pour aller pour ceux qui font déjà des planches apéritives. Eh ben, c'est proposer la version végétale de la planche apéritive. Notamment l'Alchimiste, le bar dont je vous parlais tout à l'heure à côté de la gare Saint-Sauveur, va proposer nos planches apéritives.
Et puis, des plus grands événements, tu parlais de mariage, par exemple, ça peut être aussi l'occasion de...
Oui, alors comme je disais, ce week-end, on a fourni le buffet de fromage en version végétale pour un mariage pour 80 personnes. Donc, ça représente une grosse vingtaine de fromages qui sont dégustés là. Et c'est l'occasion, en fait, de faire découvrir à toute la famille ces produits qui sont très originaux et très goûtu. Et
pour l'instant, il y a combien de fromages proposés ?
Alors, aujourd'hui sur l'e-boutique, je suis parti sur, j'allais dire, les valeurs sûres, on est sur une vingtaine de produits.
Sous
le coude, j'ai environ trois.
Vous aurez un local, donc.
Voilà, je vais avoir de quoi stocker, etc. Le local, en fait, l'objectif, c'est d'avoir une cinquantaine de références en permanence. Sur la totalité des produits que proposent mes fournisseurs, alors c'est à travers toute l'Europe aussi, hein, j'ai des Allemands, des Suisses, des Anglais, etc. C'est une 300 références environ.
Très bien. Voilà, en tout cas, au goût, tu m'as fait goûter un des fromages qui s'appelait...
C'est le petit Alba des petits vegans, ouais.
Ouais, donc ça ressemble vraiment à du fromage avec du lait animal. Hein.
Ouais.
Et donc voilà, donc je vous invite, si vous voulez contribuer, donc c'est mymoneyhelp.fr.
C'est ça.
Sinon, il y a les réseaux sociaux, on peut vous retrouver.
Ouais.
Voilà, bien, merci beaucoup, Laurent.
Je t'en prie, Christophe.
Et merci également à Camille Plard pour sa chronique et à Héloïse Caloir pour m'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Rediffusion ce soir à 21h. Très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.